BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en gestion passive ou peut-être en gestion active. Nous allons faire le point entre ces deux types de gestion avec vous, Christian Fontaine. Rebonjour, cher Christian.
Rebonjour.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous tous les mardis en première partie d'émission, mais aussi à présent dans la deuxième partie où on répond à vos questions. On va faire un peu du basique, mais c'est important de revenir aux origines de certains concepts financiers, puisque on va parler de culture financière. On va s'opposer un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis. On va zoomer sur nos matières de faire ici en France. Alors rappelez-nous la différence ou les différences entre ce qu'on appelle la gestion active d'une part et la gestion passive de l'autre.
La gestion active part du principe que vous allez essayer de faire mieux que la moyenne du marché, c'est-à-dire en fait mieux que les indices qui reflètent donc alors l'évolution des valeurs sous-jacentes, souvent des grandes valeurs dans le cas du CAC 40 par exemple. La gestion passive, au contraire, vous partez du principe qu'il est très difficile de battre les marchés et donc vous allez mettre en œuvre une stratégie dont peu ou prou le seul objectif, entre guillemets, ça consiste à afficher à la fin de l'année une hausse ou une variation équivalente à celle des grands indices dont vous parlez sur votre antenne à longueur de journée. En sous-jacent, de cette stratégie, en fait, qu'on souvent on oppose en réalité, mais c'est ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, elle se complète en fonction du type d'investisseur et en fonction du type de sous-jacent. En fait, il y a une étude annuelle qui fait référence en la matière, c'est l'étude SPIVA, Standard & Poor's Indices versus Active Funds. Et cette étude, elle montre quoi? Elle montre que si environ 20 à 25% des fonds d'investissement gérés de façon active chaque année réussissent à battre les indices, chaque année, ce sont jamais les mêmes. Et donc, en fait, sur longue période, notamment sur le marché américain, vous avez 98% des fonds gérés de façon active qui affichent des performances inférieures aux indices. Donc ça, c'est un peu le principe de départ.
Justement, vous nous parlez des États-Unis. La gestion passive aux États-Unis, tout est dit, ça s'appelle le lazy investing, c'est-à-dire l'investissement paresseux.
Voilà, de façon un peu imagée, tout à fait.
Comment on applique ces concepts américains à notre pays, la France?
Alors, il y a trois idées très pratico-pratiques qui sous-tendent ce mode de gestion. La première idée, c'est qu'il faut investir régulièrement en bourse. Et il ne faut pas chercher à investir quand on pense que la bourse est basse ou à sortir du marché quand la bourse est haute. L'idée, c'est l'investissement en bourse. L'idée, c'est un peu comme l'abonnement en bourse. Chaque mois, vous investissez la même somme. Quand les marchés sont hauts, vous achetez peu de titres. Quand les marchés sont bas, vous en achetez davantage, ce qui permet de moyenner le prix de revient. En fait, ça évite le principal biais comportemental qui consiste à acheter quand la bourse est au sommet. Et c'est un peu l'action est l'un des rares produits où plus c'est cher, plus vous avez envie d'acheter. Et c'est comme ça que lorsqu'on regarde l'évolution donc en fait de la collecte et des investissements des particuliers, ben souvent en fait ils suivent la hausse de la bourse et donc c'est pour ça que souvent ils sont perdants. Donc premier principe, on met en place un abonnement en bourse, on investit en bourse chaque mois la même somme, on n'essaye pas de faire ce qu'on appelle du trading.
Ouais. On ne s'improvise pas trader intraday.
Voilà, on ne s'improvise pas des traders, ce qui ne veut pas dire que les traders ne gagnent pas de l'argent. C'est leur job, c'est réservé à des spécialistes, donc à des particuliers avertis. Deuxième principe de base, vous investissez en fait dans le monde entier. Vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'il faut investir en Europe, en Asie, aux États-Unis? Non, vous investissez dans des actions cotées à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe et à la fois en Asie, sur des indices le plus large possible, en partant du principe que c'est la meilleure stratégie pour profiter de la tendance haussière de la bourse sur le long terme. Et vous investissez via des produits que vous aimez beaucoup et que nous aussi au Revenu on aime beaucoup, les ETF. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, il y a un ETF, on en reparlera tout à l'heure, qui fait le buzz, donc qui est indexé sur l'indice MSCI Worldwide, donc 23 pays, 1500 valeurs de pays développés. troisième principe de ce qu'on appelle aux États-Unis le lazy investing. On investit, on fait attention aux impôts. Donc en Europe, en France, on investit dans des enveloppes à fiscalité privilégiée, PEA, PEE, donc assurance vie. Et dernier point, je sais que là-dessus vous partagez mon opinion et vous allez me chercher et me taquiner là-dessus. C'est bien sûr on optimise les frais. Bien Pourquoi sûr. On optimise les frais? Ben parce que sur le long terme, c'est l'un des éléments clés de la performance. Les frais moyens, donc lors des fonds d'investissement en actions, ça tourne autour de 2%. Vous placez 100 000 euros pendant 25 ans à 6%, vous aurez 400 000 euros. Si vous les placez à 8% parce que vous payez 2% moins de frais, eh bien vous n'aurez plus 400 000 euros, mais 600 000 euros. Dit autrement, 2% de frais sur 25 ans, avec ce type de taux de rendement, c'est 200 000 euros. Donc vous voyez que ça pique.
Absolument. Mais je suis votre disciple en la matière de frais, Christian. Vous savez que je vous cite quasiment au quotidien. Non, mais c'est très sérieux. Vous m'avez éclairé et vous m'avez changé, finalement. On continue à parler très sérieusement de cette gestion passive versus la gestion active. Bon, vous allez nous dire que ça n'est quand même pas la méthode miracle, cette gestion passive, que quand même, elle a quelques failles.
Alors, elle a quelques failles, oui, parce qu'en théorie financière, la théorie financière dit quoi ? Que quand vous avez une somme à investir en bourse, il ne faut pas procrastiner, il faut l'investir tout de suite. Et c'est vrai que c'est la meilleure stratégie pour optimiser vos gains. La seule chose, c'est que votre objectif n'est peut-être pas forcément de gagner le plus, mais aussi de dormir tranquille. Si vous aviez investi au sommet de la bulle Internet en 2000-2001, vous avez mis plus de 10 ans avant de récupérer votre mise. À condition, et vous avez récupéré votre mise, à condition que vous n'ayez pas vendu entre-temps. Donc, je dirais que le lazy investing n'est peut-être pas la technique qui permet de gagner le plus, mais c'est la technique qui permet de gagner le plus tout en dormant tranquille. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que gestion active et gestion passive ne s'opposent pas, en fait. Vous pouvez très, très bien décider, par exemple, pour les small caps, les petites valeurs européennes, de confier votre argent à un professionnel parce que les professionnels qui sont sur cette thématique des small caps souvent battent leur indice de référence. Il y a peu d'informations sur les small caps. Les indices ne sont pas forcément représentatifs. Pour un gérant qui passe ses journées, il va souvent réussir à afficher de meilleures performances que les indices. Pour les grandes caps européennes, vous pouvez très bien partir du principe qu'en écoutant votre antenne, en lisant la presse spécialisée, vous pouvez battre les indices et donc là aussi adopter plutôt une gestion active. Par contre, pour tout ce qui est l'international, l'exposition de votre portefeuille, notamment aux actions américaines, là, la gestion passive prend tout son sens. Le marché américain est un marché très particulier. C'est un marché où l'information circule bien. Ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque vous êtes analyste ou gérant à New York ou à Orlando ou à San Francisco, et bien peu ou prou vous avez le même niveau d'information. C'est très difficile d'avoir plus d'informations sur Coca-Cola ou sur Nvidia que votre concurrent, le gestionnaire concurrent qui travaille dans une banque concurrente de la vôtre. Du coup, c'est très difficile de battre les indices. C'est pour ça que la gestion passive sur les marchés américains est particulièrement bien adapté.
Cette disponibilité de l'information, un point à souligner. Bon, on parlait de tracker, on parlait d'ETF qui sont par définition le symbole, je dirais, de la gestion passive. Est-ce que vous pouvez nous aider à bien choisir nos ETF? Si on respecte ce que vous nous avez dit, on met un petit peu tous les mois, on essaye d'avoir une vision aussi, un investissement aussi globalisé que possible, pardon pour l'anglicisme, et bien sûr avec les ETF, on est à peu près sûr qu'on ne paye pas trop de frais, mais comment on choisit ces ETF parmi l'offre pléthorique d'ETF?
Alors c'est vrai, bon d'abord il faut simplifier la vie, donc on choisit un ETF coté à Paris, c'est beaucoup plus simple, et puis c'est vrai que un ETF s'achète comme une action et donc s'il est coté sur Euronext Paris, vous paierez moins de frais de courtage que s'il est coté à New York. Ensuite, on choisit un ETF qui est plutôt proposé par une grosse société de gestion, Amundi, BNP, BlackRock, via leur gamme iShares. On choisit plutôt un ETF qui capitalise plus de 50 millions d'euros, sauf en phase de lancement. Alors pourquoi ? Parce que ça veut dire que les ETF sont des produits. sont des produits peu ou prou comme les autres. Si un ETF pèse plus de 50 millions d'euros peu ou prou, ça veut dire qu'il marche, ça veut dire qu'il rencontre donc ses investisseurs, ça veut dire qu'il ne risque pas de disparaître. Vous savez, les ETF, il y en a qui disparaissent et qui apparaissent tous les jours. Bon. Donc il faut mieux se positionner sur un ETF qui marche, en tout cas si vous êtes dans une perspective d'investissement de long terme. Un ETF éligible au PEA, un ETF qui prélève très peu de frais, certains ETF qui répliquent par exemple les grands indices américains, le MSCI World ou par exemple le Standard & Poor's 500, peuvent prélever 0,03, 0,04, 0,07% de frais, donc moins de 0,1% de frais. Voilà, c'est à peu près les indices. Après ça, on peut regarder dans les détails. C'est vrai que il faut regarder dans le temps la capacité de l'ETF à reproduire la performance de l'indice sous-jacent, par exemple. Et puis, selon votre profil d'investisseur, vous pouvez choisir un ETF qui va distribuer des revenus, parce que vous avez besoin de revenus complémentaires, ou qui va les capitaliser, c'est-à-dire les réinvestir, donc alors pour profiter, donc alors à fond, de l'effet boule de neige et de la capitalisation des intérêts, donc alors la 7e ou la 8e merveille du monde, selon Albert Einstein. Voilà. Donc c'est quelques-uns des critères de sélection d'un bon ETF.
On parlait de culture américaine opposée à culture française. BlackRock, gérant, énorme gestionnaire d'argent, a lancé un produit pour le marché français, dont on a parlé sur cette antenne déjà, mais c'est intéressant d'avoir votre regard, Christian. Un ETF éligible au PEA qui couvre, voilà, qui est globalisé. Votre regard sur ce produit, qu'est-ce que ça dit à la fois du marché français, de l'intérêt du PEA et puis peut-être quelque part de la stratégie de BlackRock?
Alors, c'est très intéressant de voir que c'est un géant mondial, le numéro un mondial de mémoire de la gestion d'actifs, un Américain qui décide de lancer un produit destiné, coté à Paris, destiné exclusivement à la clientèle de particuliers français. Donc déjà ça c'est un fait extraordinaire, ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui montre quoi ? Ce qui montre que BlackRock croit au potentiel de la France, croit au potentiel du marché retail, donc des particuliers de la France, et croit à l'enveloppe fiscale du PEA. Ce qui montre aussi, c'est qu'il croit au sous-jacent. Donc, c'est ce fameux indice MSCI Worldwide, donc qui est un indice boursier qui reflète la performance des grandes bourses occidentales, hors pays émergents. Et c'est vrai que cet indice a affiché au cours des 10 dernières années des performances exceptionnelles, puisque le gain moyen annuel est largement supérieur à 10%. Bon. Donc, c'est l'indice, c'est le tracker, c'est l'ETF, donc alors, qui fait le plus le buzz sur les réseaux sociaux et a raison. Alors, l'intérêt de ce produit, il existait déjà des produits concurrents, notamment chez Amundi. L'intérêt de ce produit, d'abord, c'est qu'il a une valeur liquidative, une valeur de la part très faible, 5 euros. Donc, je dirais que vous pouvez y investir des sommes très, très modestes. Vous pouvez l'utiliser pour diversifier votre PEA facilement, l'internationaliser. Et puis, le jour où vous voudrez alléger votre ligne, ça sera très facile. Et puis, au niveau des frais, c'est vrai qu'il ne prélève que 0,25% de frais de gestion chaque année, contre 0,38 pour le produit concurrent, donc ce qui fait quand même quelques, si mes calculs sont bons, 35% de frais, donc il est 35% moins cher que le produit concurrent, donc ça c'est top. Alors attention, c'est quand même un produit, c'est un indice en dollars, donc ça vous expose quand même à un risque dollar. On parle d'actions bien sûr, donc il n'y a aucune garantie sur le capital, les marchés sont plutôt hauts en ce moment, donc c'est pas un produit miracle. Oui, c'est un bon produit de diversification, mais là aussi on y rentre progressivement.
Voilà, un petit peu de perspective sur la gestion passive à opposer ou à compléter avec la gestion active. Ce sera peut-être ça le mot de la fin avec vous, Christian. Merci beaucoup, Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Le Revenu qu'on trouve en kiosque ce mois-ci, comme tous les mois, digital aussi d'ailleurs, pour réussir ses placements immobiliers. C'est ça, la promesse mensuelle.
Oui, c'est ça. C'est notre... on remet donc alors des prix aux meilleurs SCPI, SCI, OPCI, donc ces placements qui permettent à la fois... je dirais, de cumuler les avantages des placements financiers, la liquidité et puis donc le rendement de le côté la sécurité de l'immobilier, avec bien sûr d'autres articles sur l'épargne salariale, sur investir dans une voiture de collection, sur débuter en bourse en limitant les risques, et puis aussi un petit zoom sur jusqu'à 60 000 euros d'impôts en moins en finançant une PME. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année d'ailleurs, il y a de nouveaux dispositifs pour investir dans le non-coté, investir en direct dans l'appareil productif tout en profitant de carottes fiscales particulièrement importantes, d'autres articles aussi, notamment pour savoir si vous faites des donations à vos enfants et vos petits-enfants, et si vous les passez devant le notaire, combien ça vous coûte exactement. On en a peu parlé, mais depuis le fin février, en fait, les tarifs des notaires ont été prorogés pour 2 ans, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ils n'augmentent pas, et on fait le point sur les tarifs des notaires, notamment en matière de donation.
Voilà, Christian Fontaine et l'équipe du Revenu qu'on retrouve tous les mardis dans Tout pour investir, et puis à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en podcast et en replay sur notre site et l'application de BFM Business. Cette séquence est déjà à retrouver.